Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle les magnifiques béatitudes. Et comme celle-ci se termine par la huitième, à savoir « Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice », et celle qui les récapitule toutes, « Bienheureux êtes-vous lorsqu'on dira contre vous toutes sortes de mal, qu'on vous persécutera, qu'on dira contre vous des mensonges, bienheureux, exultés. » Alors du coup, toutes les béatitudes pourraient être comprises comme une sorte de malheur qui serait malgré tout bienvenu parce que Dieu compensera. Alors, on serait dans la peine ici-bas, mais cela vaudrait la peine, parce que, justement, au ciel ou d'une autre manière, Dieu compense. En réalité, les béatitudes sont beaucoup plus belles que cela. Elles sont les actes héroïques des vertus. Et pratiquer la vertu est déjà un grand bonheur. À tout homme bien né, il est agréable d'être vertueux. Et lorsque la vertu atteint un sommet, alors la joie est d'autant plus grande. Tout homme cherche le bonheur et il y a des vrais et des faux bonheurs. Le vrai bonheur, bien entendu, c'est la possession de Dieu. Le vrai bonheur, c'est d'être uni à Dieu, c'est de s'approcher de Dieu. Et la ressemblance avec Dieu, qui est une ressemblance avec notre Seigneur Jésus-Christ, se fait dans la vertu. Notre Seigneur fut l'homme parfait qui s'est conduit comme un homme doit se conduire lorsqu'il est uni à Dieu, et c'est pour ça qu'il est notre modèle. Et cette perfection de Jésus-Christ dans sa conduite, ça a été justement d'être le modèle des vertus. Alors, si nous prenons les béatitudes une par une, tout d'abord nous verrons qu'elles sont très, très actuelles. Et c'est une raison de plus de nous encourager dans la crise. Je voudrais bien vous faire comprendre que mon message, si l'on peut dire ainsi, n'est pas « supportez bien cette crise qui est terrible et vous aurez plus tard votre récompense ». Mais comme nous disait Mgr Lefebvre, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez de vivre à l'époque à laquelle vous vivez. Alors, bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les pauvres en esprit, nous cherchons les biens, le bien matériel, les biens extérieurs, et nous constatons bien dans ce monde moderne qui devient de plus en plus riche, de plus en plus plein de biens matériels, que plus il y en a, moins on est heureux. Pas seulement parce qu'on en désire toujours d'autres, mais on s'aperçoit qu'ils ne comblent pas vraiment les désirs, ils sont de purs moyens, et les moyens en eux-mêmes n'apportent pas de satisfaction. La pauvreté, alors c'est la pauvreté en esprit, parce qu'il est possible d'être pauvre même au milieu des richesses, comme il est hélas possible d'avoir un esprit de richesse même au milieu de la pauvreté. Mais la vraie pauvreté, celle qui se plaît dans un certain dénuement, est en elle-même une joie. Nous sommes libres. Nous sommes comblés. Et pourquoi nous sommes comblés? parce que nous sentons bien que par là nous poursuivons les vrais biens, et notre Seigneur nous le dit, votre récompense ne sera pas perdue, vous possédez le royaume des cieux, mais c'est au présent, il est à vous, vous le possédez, vous avez déjà mis la main dessus. Bienheureux les doux. Ceux qui manquent à la douceur, les violents, le font parce qu'ils veulent se protéger contre ce qui pourrait leur tomber dessus, les maux qui pourraient leur tomber dessus. Alors ils réagissent avec violence. Et notre Seigneur nous dit non, bienheureux les doux. Pourquoi ? Parce que la violence entraîne la violence, et nous le savons très bien lorsque nous nous mettons en colère, sauf quelques très rares colères qui sont très vertueuses, mais qui sont des colères douces, qui ne sont pas des colères où nous sommes emportés, qui sont des colères où nous sommes maîtres de nous-mêmes. Et justement, bienheureux les doux, qui, parce qu'ils obtiendront bien mieux que les coléreux, ce qu'ils cherchent, à savoir qu'ils posséderont la terre. Pourquoi ? Parce que la douceur va avec, comment dirais-je, une certitude, une foi. On n'a pas besoin de se mettre en colère quand on est certain d'être protégé, certain que le mal ne nous touchera pas, lorsqu'on est certain que le protecteur que nous avons est tout-puissant, lorsqu'on est certain que Dieu veille sur ses amis. À quoi cela sert-il de se mettre en colère ? Et non seulement il y a cet aspect négatif, bienheureux les doux parce qu'ils ne se mettent pas en colère, mais bienheureux les doux parce qu'il y a une joie dans cette douceur, il y a une union à Dieu, il y a une paix déjà dans la douceur. Et cette paix est communicative. Cette paix nous met en sécurité, cette paix nous fait posséder la terre. Et nous le voyons bien, un homme doux a plus d'influence sur ses semblables qu'un homme violent ou colérique. Nous le voyons en éducation. La douceur, j'ai pas dit la mollesse, j'ai dit la douceur, la maîtrise de soi, est évidemment bien plus efficace que l'énervement ou la colère. Bienheureux ceux qui pleurent. Alors là, on pourrait se dire quand même, pleurer n'est pas agréable. Nous voulons bien pleurer parce que nous serons consolés et que la consolation que nous aurons plus tard dépassera infiniment les pleurs que nous avons maintenant. Mais admettons quand même que de pleurer n'est pas agréable. Eh bien, non, ce n'est pas vrai. Il y a des pleurs qui portent leur joie en eux-mêmes parce qu'ils portent le désir des choses de Dieu, ils portent ils expriment le fait qu'on ne se complaît pas dans les choses d'ici-bas. Ceux qui ne pleurent pas, qui vivent dans la joie, le font parce qu'ils veulent jouir des bonheurs, ils veulent être ce qu'on appelle heureux. Dans leur vie sensible, et le sont-ils ? Non seulement ils ne le sont pas parce que, ici-bas, le bonheur sensible n'est pas possible, et ils ne le sont pas parce que les biens sensibles ne comblent pas les désirs. Plus on en a, plus on est insatisfait, parce qu'on se rend bien compte que ces choses-là sont très limitées. Elles ne peuvent pas combler les désirs d'un homme. Alors, ceux qui pleurent sont ceux qui ont compris la valeur relative des choses. Ils ont compris que les choses d'ici-bas n'apportent pas vraiment la satisfaction. Ils la cherchent malgré tout. Ils pleurent de ne pas l'avoir. Et Dieu leur dit, mais si, c'est moi qui vous la donne. Alors, ici-bas, nous pleurons, vous voyez, nous pleurons pour deux raisons. La première, peut-être un peu égoïste, c'est que nous sommes dans la peine. Nous sommes attristés, les choses vont mal, et il y a des pleurs qui sont beaucoup plus élevés, et qui sont pour les autres. Nous pleurons à cause des autres qui, eux, sont dans la peine. Nous avons la foi, mais tant et tant ne l'ont pas. Nous avons la grâce de la fidélité, et tant sont aveuglés, se sont aveuglés ou se sont laissés aveugler. Alors, nous voyons bien également que, très souvent, cet aveuglement, le péché, vient d'un désir d'un certain bien-être ici-bas ou d'une fuite du mal-être. Et nous disons les pauvres, nous le savons, tout ce que Dieu nous donne comme joie. Et c'est pour ça que la Sainte Vierge à Fatima nous demande de faire des sacrifices et des pénitences pour les pécheurs. Et nous serons consolés parce que nous avons cette joie de rétablir les vrais bonheurs par les pleurs. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alors, très certainement, je crois que c'est notre situation, enfin c'est ce à quoi nous sommes appelés dans la crise actuelle. Nous avons faim et soif de la justice, c'est-à-dire que nous voulons demeurer fidèles à la justice de Dieu. Qu'est-ce que la justice ? C'est la sainteté, c'est la vérité de Dieu. Ce n'est pas une question de justice purement commutative, à savoir de payer ses dettes. C'est la belle grande justice qui dépasse toute mesure. La grande justice envers Dieu, tout d'abord, la vertu de religion. Et puis même la grande justice envers les hommes, qui est le désir de la chrétienté, une vue qui domine nos préoccupations personnelles pour nous élever à la préoccupation du bien commun, de la société tout entière, de l'Église tout entière, de la société, oui, de la chrétienté. Alors cela, nous en avons la soif. Nous en avons d'autant plus la soif que nous voyons les hommes s'attaquer à cela. Et je vous en parlais dans le serment du Christ roi. Nous sommes les dépositaires de cette conviction que le Christ seul peut régner sur les sociétés pour les rendre heureuses, que le Christ est roi par nature. C'est cela notre désir, notre faim de la justice, à savoir que nous avons faim de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, par une grâce de Dieu, nous avons une clairvoyance sur ce qui s'y oppose, parce que qui a faim de ce qui nourrit, fuit le contraire, fuit ce qui ne nourrit pas, fuit ce qui s'y oppose, comme celui qui a faim de la douceur fuit la violence, celui qui a faim de la pauvreté fuit les richesses, etc. Alors, nous fuyons cette fausse justice, ce désordre, cette révolution. Et alors, nous serons rassasiés. Nous serons rassasiés, c'est-à-dire que cette justice, notre faim sera comblée. C'est-à-dire que nous ne désirerons plus parce que nous aurons ce que nous désirons. Nous n'aurons plus à le désirer parce que nous le posséderons. Alors nous le posséderons parfaitement au ciel, bien entendu, mais nous le possédons déjà sur la terre, car nous vivons dans l'Église. Monseigneur Lefebvre disait « Nous sommes l'Église ». Oh, bien sûr, non pas que nous nous prenions pour l'Église tout entière, il y en a bien d'autres que nous qui ont faim et soif de la justice. Il suffit de lire le livre de Rose Hue, par exemple. Et il y en a beaucoup d'autres que nous ne connaissons pas. Je suis surpris, par exemple, j'ai reçu des messages de quelqu'un de La Réunion, par mon site internet, évidemment, le site, alors, tout est universel. Maintenant, on se branche dessus à La Réunion aussi facilement qu'à Paris. Et cette personne m'écrit « Oh, monsieur l'abbé, comme cela fait du bien d'écouter ce que vous dites, de lire ce que vous écrivez, et elle devient presque une paroissienne par correspondance, une paroissienne à distance. Alors, nous sommes comblés parce que, je vous disais, nous ne sommes pas les seuls à être l'Église, il y en a d'autres en dehors de nous. Malgré tout, l'Église, ce sont les fidèles. Or, nous sommes fidèles, nous sommes dans l'Église. C'est cette joie, cette paix, qui était celle de Mgr Lefebvre, de tous les catholiques, le jour des sacres, juste après les sacres du 30 juin 1988, nous sentions que la sécurité de l'Église était assurée. eh bien aujourd'hui, elle n'est pas moins assurée, l'Église n'est pas moins certaine, au contraire. Bien qu'elle soit attaquée de toutes parts, elle est toujours aussi vivante, toujours aussi belle, toujours aussi bonne, et nous vivons en elle. Bienheureux les miséricordieux. Alors là, il est très facile de comprendre que cette béatitude comprend en elle-même sa joie et sa récompense. Quel est l'homme qui n'aime pas être miséricordieux? Je veux dire l'homme normal. On se penche normalement sur la misère. Normalement, d'ailleurs, même les païens et même nos adversaires sont obligés de nous singer. Parce que s'ils ne nous singeaient pas sur ce point, ils n'auraient aucune apparence de crédibilité. Alors oui, il y a une joie à se dévouer, il y a une joie à s'oublier. Regardez la mère de famille. Les gens du monde disent « Oh, ma pauvre dame, vous avez 10 enfants, 12 enfants, que ce doit être pénible !» Et la maman répond « Mais vous n'avez rien compris, je suis bien plus heureuse avec mes 12 enfants qui m'ont tant et tant obligée à me lever la nuit, à me donner du mal, à me faire du souci, à les soigner, à me préoccuper, à prier pour eux, à me faire du souci quand je craignais qu'ils déraillent. Je suis bien plus heureux avec tout cela que tant d'autres avec un ou deux. » Alors pourquoi? Parce que la maman se penche sur la misère. La maman a un cœur de misère, un cœur de miséricorde, je veux dire. Elle se penche sur la misère. Et elle est satisfaite. Plus elle donne, plus elle est satisfaite. Et alors elle obtient miséricorde. C'est-à-dire que notre petitesse, nous avons besoin d'une double miséricorde. Une miséricorde à cause du péché, à cause de nos défauts et tout cela. Et puis nous avons besoin de la grande miséricorde de Dieu parce que nous ne sommes rien. Nous sommes vides en nous-mêmes. Il n'y a que Dieu qui peut nous combler. Il n'y a que Dieu qui peut nous faire être, exister, vivre, penser, aimer. Alors, il y a dans cette pratique de la miséricorde une imitation du bon Dieu. Dieu est miséricordieux par nature. C'est presque sa définition. Alors, il y a une imitation du bon Dieu. Et bien sûr qu'il y a une joie à imiter le bon Dieu dès maintenant. Notre joie sera beaucoup plus parfaite au ciel, mais elle est plus que commencée ici-bas. Bienheureux les cœurs purs. Alors il s'agit bien entendu de la chasteté, mais pas seulement, parce que sinon notre Seigneur aurait dit les corps purs. Et donc il s'agit des cœurs purs. Nous arrivons là déjà dans une très grande union au bon Dieu. Les béatitudes, les premières béatitudes sont par rapport aux biens extérieurs. Les béatitudes qui suivent sont par rapport au prochain. Ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de la justice, et ceux, les miséricordieux. Et nous arrivons là, dans les deux dernières, parce qu'il y a 7 béatitudes, la 8e ne fait que résumer. Nous arrivons avec les 2 dernières béatitudes, dans une très grande union à Dieu, une très grande proximité de Dieu, cette vie contemplative qui n'est pas le seul privilège des religieux, des moines ou des saints, qui est le privilège de tous les chrétiens. Il suffit d'être chrétien pour voir Dieu. Il suffit d'être chrétien pour connaître Dieu. Il suffit d'être chrétien pour apprécier la grandeur, la beauté, la majesté de Dieu. Et que cela suppose-t-il? Cela suppose d'avoir un cœur pur, c'est-à-dire de s'attacher à lui, de ne pas s'attacher au monde, de ne pas se salir avec le monde. C'est à l'opposé du libéralisme. Le libéralisme est un cœur double. Le libéral a un cœur sali. Le libéral a un cœur avili. Il se présente comme un noble et il est avili. Et nous avons fui le libéralisme. Nous avons pitié des libéraux. Parce qu'on a pitié de tous les pécheurs. Et nous avons pitié de tant et tant de libéraux qui furent nos amis, et qui, malgré tout, se sont avilis avec le monde, et qui n'ont plus cet enthousiasme de la gloire de Dieu, de la majesté de Dieu, du triomphe de Dieu, du triomphe de la Sainte Vierge, de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous travaillons, c'est pour cela que nous sommes sur terre, c'est de cela que nous vivons. Rappelez-vous la lettre magnifique de Mgr Lefebvre que je vous ai lue dimanche dernier. Nous travaillons, nous ne voulons qu'une chose, c'est le doux règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis en train de vous expliquer que ce règne est doux par nature et que d'obéir à Jésus-Christ, c'est doux par nature et que de fuir le reste, c'est doux par nature. Et bienheureux, enfin, les pacifiques. c'est-à-dire qui mettent la paix, qui réconcilient avec Dieu, c'est vraiment là la béatitude du royaume de Dieu, la béatitude de ceux qui veulent la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils mettent la paix, ils mettent l'ordre. L'ordre, c'est la paix, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire que toutes choses sont ordonnées, les plus basses pour les moyennes pour les plus élevées. Le tout monte vers Dieu. Alors, ceux-ci, ils seront appelés fils de Dieu. Fils de Dieu comme le fils de Dieu qui a mis la paix parmi les hommes. C'est la plus belle des récompenses qui puisse être. Et ils le sont déjà. Ils sont déjà fils de Dieu. Ils seront appelés définitivement au ciel. Mais dès cette terre, ils sont fils de Dieu, parce qu'ils font l'œuvre de Dieu, d'une part, parce qu'ils sont reconnus par le bon Dieu, parce qu'ils sont de la famille de mon Dieu. Alors, il reste la huitième béatitude qui résume toutes les autres. Et bienheureux êtes-vous lorsque vous souffrez persécution pour la justice. Et c'est le mot justice qui est important. Parce que cette persécution, vous voyez, est peu de chose pour celui qui possède la justice. C'est pour cela que tant de martyrs ont été heureux au milieu des souffrances. C'est pour ça que Saint Laurent, sur son grille, plaisantait. Et c'est pour ça que tant de faibles femmes qui furent martyrisées étonnaient leurs juges par leur force, par leur constance, parce qu'elles possèdent celui qui est tout. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le dit, qui a Jésus a tout. Alors, le monde les prive de quoi? De babioles, de rien, de miettes que de toute façon ils allaient quitter et que de toute façon ils travaillaient à quitter. Alors bienheureux serez-vous lorsqu'on dira contre vous des mensonges, lorsqu'on vous maudira, lorsqu'on vous calomniera. Bienheureux, réjouissez-vous, exultez, car votre récompense est grande dans le ciel. Et vous remarquez que certaines des promesses sont au futur, certaines au présent. Celle-ci est au présent. Notre récompense est déjà grande dans le ciel. C'est cette fidélité à Dieu. Nous nous posons trop la question, savoir que faut-il faire. Nous avons la réponse aujourd'hui. Tous les saints du ciel ont tous cherché à faire ce qu'il fallait pour gagner le ciel. Et l'Évangile nous le dit, c'est les béatitudes. Alors oui, bien entendu, il faudra redescendre dans le concret. Et que vais-je faire pour être pacifique, pour réconcilier mon prochain avec Dieu? Que vais-je faire pour être miséricordieux? Que vais-je faire pour pleurer avec ceux qui pleurent? Que vais-je faire pour être doux, humble, etc. Mais à partir du moment où nous savons ce que nous voulons être doux, nous voulons pleurer, nous voulons être miséricordieux, nous voulons être pacifiques, nous savons ce que nous voulons. Alors la mise en œuvre devient beaucoup plus facile. Ce n'est qu'une question de mise en œuvre, ce n'est plus une question d'idéal parce que l'idéal est déjà là. Et quand vraiment nous le voulons, eh bien quoi que nous fassions, nous y arriverons. Les moyens ne pourront pas nous manquer. Alors demandons à la Sainte Vierge. C'est la première qui a vécu des béatitudes. Dieu sait si la Sainte Vierge a vécu en esprit de pauvreté. Dieu sait si elle a été douce, humble. Dieu sait si elle a pleuré au pied de la croix pour les pécheurs. Et elle a pleuré avant même d'être au pied de la croix parce qu'elle savait qu'elle mettait au monde son Fils pour qu'il meure sur la croix et pour qu'il pardonne aux pécheurs. Demandons à la Sainte Vierge ses grandes béatitudes. Vivons dans la joie au milieu des tourments actuels. Tourments qui vont ne faire que s'augmenter et notre joie ne va faire que s'augmenter. Demandons cela à Dieu. Remercions-le. Remercions-le de nous rendre si heureux. Remercions-le de nous permettre de partager cette joie. Cette joie qui est notre marque. Alors, c'est ce que je vous souhaite à tous mes bien chers frères. Et surtout ceux qui êtes en famille, partagez cette joie avec la famille. Et les autres, partagez-la avec vos prochains. Faites-vous des amis pour le royaume des cieux, sous la bénédiction de la Très-Sainte Vierge, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.